dans un élan d'indulgence et de bienveillance pour la personne, j'ai juste envie d'aller manger un cookie. Donc,
c'est tellement parfait!
Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif.
Épisode 26. Salut, ça va?
Non. Et toi?
Avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Deloume et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
Allô, vous êtes à un épisode des Neurodivertissantes encore une fois. Bonjour, bonjour. Ça va bien, les filles?
Ça va bien.
Oui.
Je vous demande ça, mais en fait, aujourd'hui, on a décidé de vous parler de santé mentale parce que ça va pas si bien que ça. Et non. moi, dans mon cas, la semaine passée, j'ai réalisé que ça allait pas partout, que je me dirigeais droit vers une jolie dépression, encore une fois. Fait que je mets en place des stratégies pour ça. Fran aussi, tu as des défis ces temps-ci?
Oui, la surcharge et l'épuisement sont malheureusement mes meilleurs amis pour le moment.
Non, c'est nous.
Oui, c'est vrai. C'est juste qu'il va falloir se battre un peu parce que l'épuisement et la surcharge en ce moment prennent de la place en petit pépère.
On va les tasser.
Ouais. Il y a un de nos amis aussi qui est en arrêt à cause de problèmes là-dessus. Fait qu'écoute, ça nous... comment dire, ça, c'est partout autour de nous. Puis Mélissa est prise à l'intérieur de tout ça, la pauvre.
Non, mais écoute, ça va. Puis tu sais, je veux dire, on n'est jamais à l'abri. Puis on, je ne sais pas que tout est parfait. Puis tu sais, on va en parler justement avec la santé mentale que, mm-hmm. tu sais, être en bonne santé mentale, c'est pas, comme tu disais, là, tu sais, de ne pas avoir aucun trouble. Mais tu sais, c'est d'être optimale et au-delà de ça. Est-ce que je suis optimale et au-delà de tout? Absolument pas, loin de là. Non,
puis bref, on a fait ce constat-là que c'est... Ben, en fait, c'est aussi collectif. Il n'y a pas juste nous. C'est assez universel, je pense, dans ce contexte pandémique. Il y a plusieurs articles là-dessus. Puis donc, on n'est pas seuls dans cette histoire, heureusement. Mais quand même, ça nous a donné l'envie de vous en parler parce que c'est un sujet important, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Oui, puis on croit qu'il faut le normaliser, il faut le déstigmatiser. Plus on en parle, plus les gens vont se sentir confortables de nommer quand ça ne va pas. Parce que c'est un réflexe bien, bien cristallisé, hein, comment ça va? Ah, ça va toi? Hein? La preuve étant le début de cet épisode, by the way.
Exactement, ouais. Mais c'est pour ça que je l'ai fait. tu m'as découverte. mais oui, tu sais, il faut en parler. Puis je pense que c'est important... non seulement d'en parler, mais aussi ça normalise la chose, comme tu le disais. Mm-hmm. Tu sais, la publication que j'ai faite la semaine dernière pour dire, ben voilà, je suis en train de frapper un mur et je dois mettre en place des stratégies pour que ça change. J'ai eu un nombre de vues absolument pharaoniques et puis j'ai eu plein de commentaires, tant en privé qu'en public. Donc, quand même, il y a de la place pour ça. Fait que,
vraiment, voilà. Puis on l'a dit, il y a une espèce de phénomène un peu sociétal en ce moment, on en parlera un peu plus, mais... Il y a comme une surreprésentation dans notre entourage. Notre entourage, personnellement, j'ai un entourage avec beaucoup de personnes neurodivergentes. Je sais que vous aussi. Donc, on se rend bien compte aussi là, des croisements et des chevauchements qui se font entre certains profils neurodivergents et certains vécus plus difficiles en ce moment.
Oui, effectivement.
Mm-hmm. Puis c'est ça, je pense que cette nouvelle vague-là, on ne se cachera pas, elle a amené quand même son lot de désespoir un peu partout, tu sais, tout le monde s'est fait vacciner, tout le monde, ben pas tout le monde, mais bon, on rentrera pas là-dedans.
La majorité
s'est fait vacciner en se disant, tiens, on fait la bonne affaire, puis là, finalement, tu sais, mm-hmm. c'est comme pas suffisant, puis là, ben, cancel le jour de l'an, puis on... fait que ça rajoute tout ça, tu sais, à l'épuisement qu'on vit quand même depuis 2 ans, là. Mm-hmm.
Oui, nous, ici, il y a un confinement, puis un couvre-feu, donc c'est assez intense. Pareil que le couvre-feu va être levé lundi, mais peut-être que quand vous allez entendre l'épisode, il n'y aura plus de couvre-feu, c'est merveilleux.
Mais ça reste que ça me fait faire une référence à un article qu'on m'a partagé, là, je pense la semaine passée, de la presse, quand notre cerveau voit un tsunami, puis qui parlait justement de ce phénomène d'après 2 ans de stress chronique, d'adaptation, mm-hmm. comment on en vient à avoir des distorsions cognitives, nos perceptions sont erronées, nos fonctions exécutives sont amoindries, donc on surinvestit tous les petits événements négatifs, puis tout d'un coup, ils prennent l'ampleur d'un tsunami, justement, même si en bout de ligne, ils ne sont pas si énormes, c'est juste que face à nos ressources, face à notre épuisement cognitif devant la situation, ben, tout a l'air pire que pire. On n'a comme plus la capacité à dealer avec des petits irritants et des plus gros irritants, justement.
Là. Oui, puis il y a tout le reste qui s'ajoute à ça. Là. Moi, je sais que ce n'est pas tant la pandémie. Tu sais, je suis assez privilégiée de ce point de vue-là. Ça m'affecte. Ça ne change pas tant de choses que ça à ma vie, mais il y a tout le reste qui est là et qui change qui aide pas, là, finalement.
Tu sais, non plus, le contexte pandémique de confinement est pas... Je suis une des personnes assez privilégiées. Je veux dire, j'ai gardé mon emploi. Je suis assez bien comme introvertie. J'ai pas ce besoin de voir des gens beaucoup tout le temps. Fait que je sais qu'il y a des gens qui ont été excessivement affectés par le manque de relations, d'interactions, de spontanéité, justement, avec leur cercle social. Mais ça reste qu'il y a tellement de ramifications. Là, moi, je regarde, c'est de voir la détresse autour de moi, de voir mon impuissance, par exemple, au travail. Ça change très dans le réseau de la santé. Mon hypersensibilité a pris dessus. Là, je ne compute plus La détresse des autres, je n'y arrive juste plus, puis j'ai la mienne là-dedans qui s'ajoute, donc c'est comme indirectement lié à la pandémie, je veux pas.
Oui, effectivement.
C'est ça, puis tu sais, avec la pandémie, on a été souvent à dire, tu sais, par exemple, que ça avait eu quand même des bénéfices pour, par exemple, les autistes qui puissent travailler de la maison, tu sais, fait que oui, dans certains cas, c'était quasiment... plus rassurant, avantageux, mais d'un autre côté, c'est ça, tout le stress qui nous entoure, même si c'est pas nécessairement lié avec les interactions sociales, mais juste qu'est-ce qu'on voit avec la désinformation, ça crée beaucoup de stress, c'est très anxiogène, je veux pas.
Oui, puis je veux pas, on est sensible aux valeurs, fait que suffit qu'il y ait un groupe ou l'autre qui ne respecte pas nos valeurs, peu importe ce que sont nos valeurs, ça joue. On est hypersensible souvent, fait qu'on est des éponges à émotions, puis on s'entend que les émotions autour de nous en ce moment sont pas super beaux, sont pas très joyeuses, fait que...
Ouais. Puis d'ajouter à ça, ben, un stress sur la santé mentale, qu'on le veuille ou non, ben, ça peut poser un stress physique aussi. Là. Moi, je sais que je l'observe, mon corps me lâche là, depuis quelques semaines. Ouais.
Mais gars, juste moi, tu sais, on en parlait au début, avant d'enregistrer, mais j'ai jamais froid, j'ai tout le temps chaud, moi, dans la vie, je suis en camisole en plein hiver, puis là, j'ai en camisole en débardeur, voilà. Mais bref, là, j'ai une doudou autour de moi, puis j'ai froid, là. C'est signe que je suis vraiment fatiguée.
Exactement. Donc, voilà, le contexte s'y prêtait vraiment beaucoup, comme vous pouvez constater. Je pense qu'il n'y aura pas grande surprise par notre thème de cette semaine. Je crois que les gens en entendent beaucoup parler, mais on jugeait que c'était important d'apporter notre lecture de la situation et de vous partager nos vécus là-dedans.
Oui, tout à fait. Puis on se disait qu'on allait partir de la définition de l'OMS pour vous en parler, parce que c'est de l'Organisation mondiale de la santé, parce que c'est quand même important d'avoir des définitions, un cadre clair, n'est-ce pas? Nous aimons ça. Alors, qu'est-ce que la santé? La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà, c'est ça la santé.
Exactement. Donc, une bonne santé mentale, ajoutons, c'est ça, on le dit, pas juste une absence de troubles ou de maladies, c'est d'être bien, c'est d'actualiser son potentiel, de participer à ses différentes sphères de vie, de pouvoir faire face aux stresseurs, de sentir qu'on fait des contributions significatives. Bref, il y a toutes sortes de tangentes nécessaires pour se considérer en bonne santé mentale. Après, je pense que l'état, on va dire, neutre, en gros guillemets, que je fais dans les heures en ce moment, peut être acceptable pendant un temps, mais je crois pas que ce soit suffisant en tout temps non plus. Je
sais pas ce que vous en pensez. Faut sortir un petit peu de la moyenne des fois, vers le haut.
C'est ça, c'est pas propice à l'épanouissement.
Je me rappelle, j'avais eu un professeur qui m'enlevait tous les downs, ça allait bien, j'avais plus de gros creux, mais j'avais plus de gros positifs non plus, j'étais vraiment au neutre tout le temps, puis hey, c'est pas une vie ça.
Non.
Effectivement, c'est pas joyeux.
Ouais, c'est quand même un gros programme qu'on a aujourd'hui, mais de le voir de façon, on n'est pas là non plus pour rabâcher les oreilles puis se plaindre, on est là aussi pour arriver avec des outils, fait que, t'sais, de regarder comment est-ce que dans le milieu du travail, t'sais, on est en ressources humaines, puis on voit beaucoup de personnes dans nos réseaux en ressources humaines parler de bon, mais comment est-ce qu'on fait de la prévention, on parle beaucoup
des programmes d'aide aux employés.
De tout ce qui est possible de mettre en place, c'est ça, des programmes d'aide aux employés, merci. mais comment est-ce que tout ça peut se définir après ça quand on parle de neurodiversité? Puis comment est-ce que on peut arrêter de juste voir, justement, quand on parle du paradigme de la neurodiversité, on veut sortir du cadre médical parce qu'en ce moment, presque toutes les conditions de la neurodiversité se retrouvent dans le DSM comme condition de santé mentale. Fait qu'il y a ce décloisonnement qu'on essaie d'avoir. Mais d'un autre côté aussi, ce que je m'en allais, c'est de dire que la vision qu'on a des troubles de la santé mentale ou des conditions de la neurodiversité sont aussi dépendants des conditions sociales dans lesquelles on évolue. Fait que si on ne change pas les conditions sociales dans lesquelles on évolue, ben on peut pas non plus ajuster puis s'épanouir. Fait que c'est pour ça que le corps du travail en ce moment, c'est un gros morceau à aller chercher puis à aller travailler pour aider, dans le fond, toutes les personnes à s'épanouir, là, dont des personnes neurodivergentes.
Oui, d'ailleurs, sur ce plan-là, il y a une excellente nouvelle. Mm-hmm. Je vous en ai parlé avant l'épisode. Je vous l'ai annoncé, d'ailleurs, je suis surprise parce qu'il me semble que c'est tellement... Enfin, je dois avoir des gens autour de moi qui sont plus excités que qui sont spécialisés, en fait. Mais la loi sur la santé et sécurité du travail a changé l'automne dernier. Oui, oui. Et puis maintenant, les employeurs ont l'obligation de faire attention aux risques psychosociaux. Ça, c'est-à-dire qu'ils doivent faire attention à notre santé mentale, finalement. C'est merveilleux. Mm-hmm. Et ça, ben, ça va être en vigueur le 1er janvier 2024. Là, c'est pas demain matin, mais quand même.
Oui, j'ai une question, Solène, c'est ça, je ne sais pas si tu es en mesure de vulgariser un peu, mais concrètement, ce que ça va vouloir dire pour les employeurs et les employés en termes de mesures? Ou...
Ben, ça, en fait, ce n'est pas encore défini par le gouvernement, c'est une des choses qu'on attend impatiemment dans le milieu, mais on sait que toutes les entreprises de plus de 20 employés doivent mettre en place des mécanismes de prévention et de participation et s'attarder sur les différents risques, notamment les risques psychosociaux, en pleine connaissance de la complexité de cette tâche. Et là, je lisais un guide que l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées a écrit et a lancé ce matin. Mm-hmm. Donc, voilà, ça va être super intéressant.
Donc, excellente nouvelle.
Oui, mais on n'en sait pas encore, on ne sait pas encore tous les détails, on ne sait pas encore comment ça va s'incarner, mais chose certaine, les employeurs vont devoir faire attention à la santé mentale de leurs travailleurs et travailleuses.
Puis, tu sais, mais on n'est pas, on n'a pas nécessairement besoin d'attendre après la loi non plus pour commencer à mettre des actions en place, tu sais. Fait que, soyons proactifs, puis peut-être qu'on pourrait, tu sais, prendre le temps de définir c'est quoi les facteurs de risque psychosociaux concrètement, ça mange quoi l'hiver. Mm-hmm. J'ai devant moi, dans le fond, la fiche d'information de la santé et sécurité, dans le fond, le Centre canadien d'hygiène et de santé sécurité au travail. Donc, pour leur part, eux autres, ils ont identifié 13 facteurs de risque psychosociaux qui vont venir avoir une incidence sur la santé dans l'organisation, la santé des employés, la santé financière, puis aussi sur les façons dont le travail est effectué, puis dans quel contexte est effectué pour prévenir la santé psychologique là, des personnes. Mm-hmm. Puis ces 13 facteurs-là, en fait, j'ai dit-tu les 13?
Ben oui,
vas-y. Ben oui, OK.
Instruisons.
Instruisons-nous. On va vous laisser lier, évidemment, parce que c'est cela. Soutien psychologique, culture organisationnelle, clarté du leadership et des attentes, courtoisie et respect, compétences et exigences psychologiques, croissance et perfectionnement, reconnaissance et récompense, participation et influence, gestion de la charge de travail, engagement, équilibre, protection de la santé, protection de la sécurité psychologique et protection de la sécurité physique.
Wow! Mais hey, il y en a plein là-dedans qui touchent la neurodiversité, hein?
Ben oui!
C'est assez fou! Parce qu'on s'entend que si nos besoins ne sont pas rencontrés, bien souvent on va être démotivé au travail, on va être démobilisé, on va avoir de la difficulté à trouver du sens à notre travail. Ça peut vraiment jouer là-dessus. En tout cas, moi, ça a été mon parcours. Il y a plein de gens autour de moi dont ça a été le parcours. Et que ben, les employeurs vont devoir faire attention à ça.
Oui. Puis, tu sais, on en avait parlé hein, dans l'épisode sur la douance en milieu de travail, quand on disait que, justement, tu sais, le fait de s'assurer que les personnes restent mobilisées, qu'on fait attention à tout ce qui est la justice procédurale au sein de l'organisation, d'équité, les valeurs, pour ne pas basculer, justement, dans le bore-out ou dans le brown-out ou dans le burn-out, justement, bien, ça faisait partie de ça, les facteurs de risque psychosociaux. Fait que c'est pas juste de dire... on s'assure que tu ne sois pas déprimé ou que tu ne sois pas trop anxieux dans ton travail. Tu sais, c'est de dire, OK, comment est-ce que tu peux participer, avoir une influence, te sentir enrichi dans ton travail? Puis oui, tu sais, on sait que les personnes neurodivergentes, comme on l'a déjà dit, tu sais, c'est comme des canaries dans la mine. Hein, fait que
ça s'applique à tout le monde.
Oui, ça s'applique à tout le monde, mais ça risque de basculer plus rapidement selon différentes circonstances pour des personnes neurodivergentes. Fran?
Ben, j'ai besoin de faire un commentaire éditorial potentiellement polarisé, mais ce sera mon opinion. Je t'avoue que je ne peux pas m'empêcher de penser, quand tu lis ces 13 facteurs psychosociaux, ben, ces 13 risques psychosociaux-là, à tous mes collègues dans le réseau de la santé, dans le monde de l'intervention, dans le monde du communautaire. Je vous avoue que ici maintenant, je trouve qu'il y a énormément de ces risques-là qui sont exacerbée mm-hmm. pour les gens dans le réseau de la santé et dans le milieu de l'intervention en général, que ce soit par le contexte pandémique, oui, mais par les pressions que ces personnes-là vivent en ce moment. Je sais qu'on est dans un gros engrenage, puis que c'est pas si simple que ça, puis qu'on peut pas tout résoudre, mais franchement, je souligne la résilience du personnel de la santé et oui. du monde de l'intervention en ce moment avec tout mon cœur.
Ouais, mais j'ai aussi travaillé dans ce milieu-là. Puis moi, mon travail, c'était de trouver des employés pour remplacer ceux qui n'étaient pas là. Puis les absences. Écoute, c'est. Puis ça fait quand même 2 ans que j'ai quitté quelque chose comme ça. Donc, c'était au début de la pandémie. Puis c'était déjà tellement difficile. Ça fait des années que le réseau est à bout, qu'il manque de personnel, qu'on doit supplier les gens de rentrer. Puis là, en plus, il y a la pandémie. Écoute, ça n'a juste aucun sens. Là. Fait que oui, c'est effectivement, juste... chapeau.
Oui, parce que c'est de se dire d'être disponible mentalement, ben, cognitivement, émotionnellement pour d'autres personnes qui sont plus en détresse que nous, que ce soit physiquement ou émotionnellement ou mentalement. C'est parce que comme intervenant et intervenante, on est notre premier outil. Fait que si on est nous-mêmes en ce moment pas disponible, si on est nous-mêmes en détresse, puis quand je dis intervenant, c'est vraiment au sens large, là, c'est vraiment tous les professionnels du réseau de la santé, là, ou toute personne qui travaille avec d'autres êtres humains, en fait, honnêtement, là, ben, c'est pas tant humain en ce moment de se demander d'être là pour les autres quand on a de la difficulté d'être là pour nous. Mais comme je dis, c'est mon opinion peut-être un peu tranchée pour aujourd'hui.
Ben, genre une seconde.
Je sais pas si c'est polarisant, je vois pas, ça serait quoi le contraire, mais bon.
Ouais, mais non, effectivement, c'est comme ça dans plusieurs milieux, ouais. Mais effectivement, le réseau de la santé en ce moment.
On en voit beaucoup aussi passer pour les ressources humaines qui sont poussées à bout de souffle dans plusieurs organisations, justement, essayer de protéger les personnes, de pallier à la pénurie, de rentre le monde des bureaux, sort le monde des bureaux, rentre le monde des bureaux, le monde tombe malade, tu sais.
Ah oui, les règles changent sans arrêt, là, ça n'a aucun sens.
Non, mais notre adaptabilité, là, elle est sollicitée à son comble en ce moment.
Ah oui. Fait qu'écoute, tous ceux qui sont à bout de souffle, peu importe où vous êtes...
On vous aime.
On vous aime. On vous envoie un gros shout-out.
Vraiment. On vous entend. On pense à vous.
Je vous souhaite tous de vous envelopper dans une doudou avec le breuvage chaud ou froid qui vous fait le plus du bien en ce moment.
Ah oui.
Et des chats.
Et des chats, si vous aimez les chats.
Si les chats sont votre chose.
Zoothérapie all the way.
Oui.
Ramenons-nous. Donc, merci Mélissa pour cette capsule éducative sur les risques psychosociaux parce que ça. J'en avais entendu parler, je connais en fait, mais tu vois, de le reprendre, de les renommer, on oublie à quel point certains d'entre eux sont banalisés en fait, ou comme sont juste. On les oublie.
Ou sont vus comme un luxe.
Oui, c'est vrai.
Mais en même temps, tu sais, on pense à ça, puis c'est quel contrat pour les ressources humaines et les employeurs? Je veux dire, c'est intense. Ça va être tout un chantier, c'est tout un changement de culture qui doit être mis en place. C'est vraiment intense.
On comprend pourquoi 2024.
Oui, c'est ça.
Mélissa?
Oui, puis tu sais, d'un autre côté aussi, je me dis l'importance... Je sais qu'avec, surtout avec la pandémie, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre, l'importance que les ressources humaines ont pris au sein des organisations a augmenté. Tu sais, on n'est plus le petit centre de coûts des petites RH là, qu'on coupe quand on peut puis qu'on donne les petits moyens du bord. Là. C'est de mieux en mieux, mais ce n'est pas encore parfait. Fait que, tu sais, dans des organisations où on engage, par exemple, là, puis je ne veux pas généraliser, mais des organisations qui veulent peut-être sauver de l'argent vont engager des plus juniors en ressources humaines qui vont devoir monter en crédibilité. Puis de, et ça crée beaucoup de disparités en termes de pouvoir politique dans l'organisation pour mettre en place des moyens qui vont venir régler ça quand, par exemple, le C-suite, les personnes à la tête, là, croient pas nécessairement à tout ça. Là,
Oui, mais là, l'avantage de la loi, c'est que là, ils n'auront pas le choix de s'en préoccuper.
C'est
et,
ça.
Il y aura des conséquences s'ils s'en occupent pas. Et ça donne un levier qui est vraiment intéressant. Puis, ben oui, c'est en 2024, mais les entreprises vont, tu sais, c'est annoncé maintenant, fait qu'ils vont commencer à se modifier puis à mettre des choses en place maintenant. Tu sais. On le voit déjà, ça démarre. Fait que c'est quand même super positif, là, mais. Ouais, quel chantier, puis en même temps, waouh, c'est je suis vraiment contente, puis en même temps, je suis tellement contente de ne plus être sur le plancher.
Ouais.
Effectivement.
Des fois, je me dis que ma boss, ça me fait travailler trop fort, mais bon, je suis moi-même.
Je t'imagine tellement t'obstiner.
Elle m'a acheté de la zoothérapie, c'est correct.
Et là, on précise, pour ceux qui n'avaient pas compris, que c'est la bosse de Mélissa.
Oui, c'est, je suis moi-même et je me suis assez un chat, fait que c'est ça.
Oh, salut Pixel, le chat le plus guidoune qu'on ait rencontré.
Oh my God, guidoune power, ça se peut pas.
Totalement.
Ah, mais c'est la ronron-thérapie, là. Ça a fait ses preuves. Moi, je vote pour ça.
Écoute, parenthèse, je vous l'avais écrit dans le chat, là, mais j'ai amené ma fille pour son vaccin. Puis elle était vraiment très, très, très stressée de ça. Elle est quand même pas très vieille encore. Puis il y avait un chien de zoothérapie au centre de vaccination.
Tellement sweet!
J'étais vraiment impressionnée. Je ne m'attendais pas à ça. Fait que, il s'est installé la tête sur ses cuisses puis elle flattait pendant qu'il faisait ce qu'il avait à faire, là. Mais non, mais tu sais, pour de vrai, je trouvais que ça s'était bien fait. Fait que oui, facteur de risque psychosociaux, on connaît des personnes qui ont des chiens dans les bureaux, qui ont des chats, qui ont... ça peut être le fun.
Certainement.
Oui, bien certain. Moi aussi, je travaille constamment avec un chat.
Mais bon, pour les risques de santé avec les allergies, par contre...
Oui, il y a ça.
Évident.
Genre, moi, je peux pas amener mon chat au travail parce que ma boss est allergique.
Oui.
Mais c'est un autre des perks du télétravail. Avoir
oui, c'est ça, au moins.
Son acolyte à poil.
Totalement. Si on venait à la neurodiversité, parce qu'on s'est écarté un peu.
On parlait du chat, on a le droit, OK?
Oui.
Mais moi, j'avais envie de faire mon petit cerveau de je sais tout universitaire. Est-ce que j'ai le droit?
Ben oui, vas-y!
Ça me fait du bien des fois de faire du name-dropping et du plugage de théorie. Non, mais pour vrai, j'avais envie de vous parler parce que la neurodiversité, on s'était déjà posé la question dans le podcast, comment on englobe la santé mentale là-dedans. Puis on avait un peu soumis l'hypothèse que la neurodiversité parle d'un fonctionnement cognitif différent de la norme, puis que quand on avait un fonctionnement cognitif différent par rapport à soi-même, donc il y avait un bris de fonctionnement dans notre façon d'aller, là, on était plus dans des enjeux de santé mentale, mais encore là, c'était flou parce que la neurodivergence peut être acquise. Et j'avais été lire un petit peu, là, donc il y a le champ conceptuel de la neurodiversité dont on parle en long, en large, puis en carré. Il y a le champ, donc les disability studies, donc le champ du handicap, puis en anglais, il y a aussi les MAD studies, qui sont vraiment un champ qui étudie l'expérience vécue de toutes ces personnes qui s'identifient ou ont été identifiées comme étant MAD en anglais, mais donc avec des troubles de santé mentale ou... qui se réapproprient des termes qui peuvent avoir une connotation péjorative. Là. Mais ce qui est important de dire là-dedans, c'est que les maths studies et la neurodiversité, il y a vraiment un beau gap à explorer parce qu'il y a énormément de recroisements des gens. Donc, toutes ces personnes-là qui vivent des situations de handicap de nature cognitive, de nature sensorielle, qui vivent une détresse émotionnelle ou de la régulation émotionnelle ou une détresse mentale, se retrouvent des fois au croisement de la neurodiversité puis des maths studies. Puis la neurodiversité, c'est vraiment un champ qui permet d'arriver de manière très bienveillante parce que ce qu'il dénonce, dans le fond, c'est la nature normative du discours médical. Tandis qu'avec la neurodiversité, on est vraiment en train de dire toutes ces variations-là, qu'elles soient temporaires, qu'elles soient en tout temps, elles font partie du génome humain, elles sont partie intégrante de notre continuum de fonctionnement. Puis ça permet de justement réaccueillir les enjeux de santé mentale de manière plus bienveillante, de manière plus... normalisante. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais...
Ben moi, je trouve que oui, mais on en a déjà parlé, fait que à nos auditeurs et auditrices de le dire.
Ouais, puis c'est ça, j'avais un article aussi qui disait à peu près la même chose, mais tu sais, comment est-ce qu'on on exclut la personne qui parle pour de vrai ici? On essaie de mettre dans des boîtes, dans le fond, les différentes conditions, puis tu sais, au niveau du DSM, là, l'article ici, il disait que En 1880, quand ils ont commencé à faire des catégories de santé mentale, il y en avait 7 différentes. Quand le DSM est sorti plus tard, rendu en 2000, rendu en 2000, je m'excuse, on était rendu à 365 diagnostics différents.
Ça, c'était le DSM-4, c'est ça?
Je ne l'ai pas ici, mais ça doit être le 4, oui. Pour redescendre à 157 en 2013 avec la dernière édition du DSM-5, exactement. Fait que, tu sais, cette expansion, motonnage de toutes les conditions mélangées fait que, tu sais, il y a beaucoup de changements, d'enchevêtrement dans tout ça. Puis, il y a beaucoup de différentes conditions. Tu sais, par exemple, quand on parle du TDAH, puis de l'autisme, il y a beaucoup de manifestations qui se recroisent entre les deux. Au niveau de la comorbidité, tu sais, j'avais vu d'autres statistiques. Je me promène entre mes différents onglets.
Mais oui, mais pendant que tu regardes ça, je vais mentionner qu'un de ces regroupements-là qu'il y a eu dans le dernier DSM, c'est l'autisme et l'Asperger. Oui. Il n'y a plus d'Asperger. C'est fini. Non. On n'existe plus. Non, on existe encore, mais on fait partie de l'autisme. Donc, c'est un des du trouble du spectre de l'autisme, je devrais dire, vu que c'est le DSM.
Ouais.
Ouais. Mais oui, on n'aime pas ça, mais c'est l'expression.
C'est ça. Puis dans un autre article, il disait, tu sais, mettons que à peu près une personne sur deux qui a un TDAH va avoir une dyslexie, une personne sur deux qui a un TDAH va avoir une dyspraxie, 9 personnes sur 10 avec le syndrome de la Tourette va avoir un TDAH, 2 personnes sur 3 avec un TDAH a des traits du spectre de l'autisme, puis il y a 8 fois plus de chances de remplir tous les critères pour un diagnostic de l'autisme.
Ouais.
Fait que, tout ça se recroise, puis après ça, tu rajoutes à ça des différentes conditions en comorbidité. J'aime mieux en anglais quand ils disent co-occurring, c'est moins...
Ouais, c'est moins laid.
Ouais. Ouais. mais tu sais, par exemple, le TDAH, puis des conditions bipolaires, ou l'anxiété très présente pour les personnes autistes, pour les personnes TDAH également. C'est des choses qui sont vraies, qui sont documentées, qui sont de plus en plus reflétées, mais qu'est-ce qui entraîne quoi versus les normes sociétales qui nous entourent, qui viennent influencer tout ça? C'est là que c'est difficile de départager tout ça.
Oui, mais justement, parfois, c'est causé par le fait qu'on n'a pas de diagnostic aussi. Mm-hmm. Je sais que moi, mes dépressions chroniques, ben, ça vient du fait que je n'avais pas de diagnostic d'autisme puis que je n'étais pas capable de m'adapter au monde autour de moi. Et là, baf, ça clashait. Mais il y a plusieurs... Puis ça, c'est sans parler des cheminements diagnostiques assez intenses des fois. Là. Je pense que je les ai tous eues dans la gang. J'étais bipolaire, TPL, un trouble d'anxiété généralisé, que j'ai eu d'autres. J'en ai eu vraiment beaucoup là, avant qu'on tombe sur la bonne chose qui était l'autisme. Oui, Fran?
L'article dont je vous parle de McQuaid, Milton et Beresford qu'on pourra partager, là, justement, c'est un peu ce qu'il propose, c'est cette notion d'avoir un dialogue entre les différents champs de recherche. Donc, si on avait un dialogue entre les Disability Studies, Math Studies et Neurodiversity, on aurait plus cette capacité à reconnaître tout le monde, reconnaître des réalités spécifiques à des recroisements, puis moins chercher les liens de causalité ou des enjeux politique, en fait, de qui était où, quand, comment. D'ailleurs, l'article fait référence à la réalité neuroqueer, qui est vraiment une réalité spécifique en recroisement de... Bon, l'article parlait de la réalité trans dans le continuum neuroqueer, mais neuroqueer est plus large que la réalité trans, juste comme vous sachez. On doit dire de la réalité trans et de la réalité neurodivergente.
Ouais.
Ces enjeux sont vécus en soi, puis de juste faire des silos ne fonctionne pas.
C'est ça. Puis l'ensemble de tous ces facteurs-là, quand ils regardent, quand ils font des recherches au niveau épigénétique, ils se rendent compte à quel point tout ce qu'on vit peut venir influencer l'expression de notre génome puis de notre génétique, puis comment est-ce que ça va venir affecter notamment les neurotransmetteurs. Puis un autre livre super intéressant que j'avais lu, je pense que je l'ai déjà mentionné, mais sur la dopamine, dans le fond. Puis comment est-ce que toutes ces conditions... En fait, ben, pas toutes les conditions, parce que dans le livre, il ne parlait pas nécessairement des profils 10 ou du syndrome Gilles de la Tourette, mais quand il parlait du TDAH et de la bipolarité, de l'autisme, de le Parkinson aussi, c'était toutes des problématiques au niveau de la dopamine. La gestion de la dopamine, fait que soit trop de dopamine, pas assez de dopamine, trop de neurotransmetteurs pour la quantité de dopamine, etc. Mais c'est quand même fou de penser que ces conditions-là, qui sont quand même assez différentes en soi, incluant aussi la schizophrénie, c'est vrai, peuvent être toutes générées par cette petite molécule invisible-là.
Oui, effectivement. Puis, parlant de comorbidité, on a parlé tantôt hors onde du burn-out autistique qui peut être confondu vraiment souvent avec la dépression, qui mène à la dépression aussi. Donc, le burn-out autistique, c'est quand on a une surcharge sensorielle ou émotive qui est trop long c'est trop long dans le temps. À un moment donné, tu fais de shutdown après shutdown, là, tu fais de l'épuisement autistique, puis là, à un moment donné, ben, tu tombes carrément en burn-out. Donc, vraiment l'épuisement autistique, là, voilà. Les termes sont plus précis en anglais. Je trouve qu'il y a plus de distinction, là, mais...
Mais justement, tu sais, ce burn-out autistique, quand tu n'as pas le diagnostic, puis on en parle beaucoup là, de toutes ces personnes qui ont des diagnostics très tardivement dans la vie là, aujourd'hui, bien, tu ne sais pas c'est quoi qui cause tout ça. Pourquoi est-ce qu'à un certain moment donné, tu sais, moi, je me remets quand j'ai eu un épuisement, tu sais, Non, je ne suis pas autiste, mais quand tu vis un épuisement en lien avec ta neurodiversité, les impacts peuvent être assez intenses et assez rapidement que tu ne les vois pas venir au point où ce que ça revenait dans les traits, dans les manifestations du burn-out autistique, de se dire qu'à un moment donné, peut-être que tu n'es même plus capable de parler.
Oui, ça m'arrive des fois. J'avais même, en tout cas, j'ai déjà eu affaire avec les policiers dans un de ces moments-là. En fait, non, j'avais pas eu affaire avec les policiers, mais j'avais failli appeler les policiers. Puis, j'avais pas appelé le 911 parce que, justement, j'étais incapable de parler.
Mm.
Puis là, j'étais « OK, mais je fais quoi si je suis plus capable de parler? » Alors, pour votre information, vous pouvez contacter votre poste de quartier et leur signaler que vous êtes autiste. Mais sinon, vous avez juste à appeler et à ne rien dire. Ils vont finir par se pointer quand même. Voilà. Mais c'est ça. Donc, c'est assez fréquent quand ça arrive, là, mais... Et c'est ça. Fait que moi, il y a eu plusieurs cas d'épuisement autistique. Finalement, ben, c'était ça et non pas une dépression. Puis ça amenait à une dépression parce que c'est ça. Je l'ai pas traité. Fait que.
Mm-hmm.
Puis tu sais tellement pas qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas ton diagnostic en plus. Ouch.
Non.
C'était pas le fun.
C'est ça. Tu sais, l'idée que tu n'as pas ton diagnostic, fait que tu sais pas, fait que tu percompenses, tu masses, tu.
Oui, puis les antidépresseurs fonctionnent pas tout le temps quand t'es en épuisement autistique. On s'entend-tu que c'est pas la même cause?
Non, c'est
que...
ça.
Puis là, ben, déjà que c'est dur de trouver un antidépresseur qui fonctionne avec la bonne dose puis tout. Ça m'a pris 10 ans personnellement, mais tu sais, c'est ça. C'est, en plus de ça, tu traites pas la bonne chose. Là.
C'est ça. Puis après ça, ben tu sais, quand tu le sais, retourner en arrière. Ou continuer de hypercompenser ou de, tu sais, de... On dirait que, tu sais, quand tu sais pas, tu fonces dans le mur, mais tu sais pas qu'il y a un mur. Mais quand tu connais le mur, t'as pas envie de te péter le nez dedans pour le fun, là, tu sais.
Oui. J'ai vu un meme aujourd'hui que, justement, c'était... OK, quand t'es jeune, on dit de te conformer à la société, puis que là, t'apprends à te conformer à la société. Puis là, quand t'obtiens enfin ton diagnostic, tu fais « OK, comment je fais pour désapprendre tout ça? » Parce que j'ai appris à dépasser mes limites bien au-delà de ce que je suis capable. Comment je fais pour désapprendre ça maintenant?
Ouais.
C'est dur. Puis moi, j'ai encore des difficultés avec ça. Je l'ai dit souvent, je ne peux plus travailler temps plein, mais j'ai encore des envies de travailler temps plein. Je m'imagine encore être capable de travailler temps plein. Puis j'ai du mal à me dire « Non, là, tu te calmes. » Là, tu vas mettre des journées de congé à ton horaire, c'est clair. Je l'ai fait aujourd'hui, d'ailleurs. Je suis très fière.
C'est une très belle stratégie qu'on peut nommer, effectivement, de se bloquer des temps de congé puis de leur donner la même valeur que les engagements professionnels. Oui, ou,
effectivement. Il faut commencer par ça quand on monte notre horaire, en fait.
Vraiment. Puis, excusez-moi, je suis un peu dans les vapes, là.
Mais c'est normal. C'est pour ça qu'on fait un épisode sur la santé mentale.
Parce que, ouais, c'est ça, moi, je peux parler de mon expérience. On a parlé un petit peu, bon, du burn-out autistique, tout ça, mais personnellement, c'est vraiment la surcharge, dans le fond, à force de compenser, à force l'hypersensibilité, qu'elle soit émotive ou sensorielle, m'amène à être une éponge à tellement de choses que je ne gère pratiquement plus le fait d'être exposée à une lumière trop forte, à un son trop fort, à une sensation qui ne convient pas à ma peau en ce moment. Un exemple vraiment flagrant, j'étais allée marcher l'autre jour, puis j'avais un enjeu avec mon manteau. Mon manteau, il claquait. Là. Je ne peux pas l'expliquer, mais...
Ça faisait du bruit.
Ça a absorbé 80% de mon cerveau, puis ça a comme affecté mon expérience de la situation parce que j'étais en attente de quand est-ce que mon manteau allait claquer encore. Je peux même pas vous expliquer la frustration que je vivais, puis j'étais comme, c'est si niaiseux, si aberrant, mais en ce moment, je suis incapable de gérer plein de sensations. Je suis l'ambivalence incarnée. Prendre une décision aussi simple soit-elle me semble une épopée digne de l'Iliade. Donc,
déjà que tu as de la misère en temps normal.
Déjà que j'ai de la difficulté en temps normal à organiser mes étapes, à faire des choix, à prioriser parce que mes fonctions exécutives ne sont pas selon la majorité normée. Mettez ça avec des ressources diminuées, avec l'hypersensibilité et la surcharge sensorielle. Je vous promets que c'est un combat de tout instant. Donc, c'est ma version du vécu neurodivergent avec les enjeux de santé mentale en ce moment.
Ouais.
L'épuisement et la surcharge.
Oui, puis le but, c'est de le voir, ces signes-là venir un peu plus rapidement. Ouais. Tu sais, Solène, t'en parlais que maintenant, tu as plus d'outils pour les voir venir. Tu sais.
Oui.
Mais quand on commence à sentir, tu sais, on disait là, au début, là, oui, ça va bien, puis tu sais, mettons que dans un certain angle, tu sais, non, je suis pas sur le bord de l'épuisement, mais en même temps, tu sais, je le vois, là, il y a des choses qui, au niveau de ma sensorialité, deviennent too much, là, avec le temps des fêtes, puis le retour à l'école qui est rallongé, tu sais, avoir un enfant à la maison pendant un mois de temps, aussi gentille et formidable qu'elle soit, Je veux dire, à un moment donné, moi, j'aime ça être seule.
Eh oui.
Fait que là, je suis plus capable de rien, comme tous les bruits de bouche, toutes les affaires. Tu sais, tantôt, Solène, elle a mangé quoi, puis elle n'y a pas passé. Puis dans mon écouteur, je savais de garocher mes écouteurs au bout de la pièce, puis de fermer mon ordi.
Je m'en voulais tellement. Je le sais, en plus.
Mais non, mais en temps normal, ça n'aurait pas été grave. On dirait que là, tu sais, moi aussi, toutes ces petites choses-là m'agressent, même si je me sens bien. Fait que, tu sais, c'est quand même un signe que... Il y a une certaine fatigue qui s'est installée à justement ne jamais être seule dans mon cas à moi, tu sais.
Mm-hmm. Ah ouais, quand je suis en couple, là, avec mon dernier chum, là, on vivait ensemble, puis oh my god, je voulais mourir. J'étais jamais toute seule, je capotais ma vie. Parce qu'en fait, quand j'étais toute seule, je travaillais. Ah non, ça allait pas. Hey, dans nos notes, on a marqué un trio du malheur pour toute la neurodiversité, puis je ne m'en rappelle plus ce qu'on voulait dire.
Ben, c'est moi qui ai marqué ça, c'est moi. le trio du malheur étant justement le fameux burn-out, bore-out, brown-out.
Oui.
J'appelle ainsi.
Trio on devait expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas.
Oui.
Oui. Fait que le burn-out, ben, étant l'épuisement professionnel ou émotionnel ou peu importe. Le bore-out étant un type d'épuisement où tu t'emmerdes tellement, excusez la terminologie, mais où tu t'ennuies tellement au travail que tu deviens comme juste...
Désabusé.
Ouais.
Non, c'est ça. En fait, les conséquences se ressemblent. C'est
oui.
Les causes. Ça va différer dans les causes, mais sinon, ça se ressemble beaucoup quand même.
C'est ça. Puis le burn-out, c'est quand ce que tu fais, tu fais aucun sens. C'est quand tu es dans l'espèce de bureaucratie infernale ou ce que tu as juste l'impression
dans
de...
Dans la maison d'Astérix, là.
Ouais, j'ai une pensée pour les pirates en ce moment.
Qui m'amène à vouloir dire que la fatigue, l'épuisement, la perte de sens n'empêche pas, et je sais que ça semble contre-intuitif, d'avoir besoin d'être stimulé.
Tellement!
Moi, c'est un peu ce que je vis en ce moment, c'est OK, il faut que je me repose, j'ai clairement besoin de prioriser des choses, mais si je ne me stimule pas d'une manière ou d'une autre, je vais péter aux frettes.
Ouais. Voilà. J'avais déjà été en méga dépression, vraiment, c'était l'enfer, puis mon employeur ne voulait pas que j'étudie pendant ce temps-là, parce que tu sais, t'es censé être malade, hein? Je suis censée être roulée en boule dans mon lit puis à pleurer ma vie. Puis c'est comme, ouais, mais non, j'ai besoin d'aller étudier, j'ai besoin de cette stimulation-là. C'est pas le travail, déjà, en partant, c'est énorme. Puis c'était pas une contrainte pour moi d'étudier, là, donc j'ai besoin de ça. Il y a une stratégie que j'ai pas encore tenté la chose, mais ce que je ferais aujourd'hui si j'étais employée et que j'avais à prendre un congé comme ça et que je voulais continuer à étudier, je ferais écrire la chose à mon médecin. Oui. Sur mon papier médical, les études sont recommandées, fortement recommandées. Enfin, quelque chose de ce calibre-là.
Selon la capacité, c'est ça.
Ben, c'est ça, parce que, tu sais, on s'entend, là, on a parfois besoin de stimulation. Ben oui, je pense que c'est nécessaire quand t'es en dépression d'avoir une certaine forme de stimulation. Puis de,
mais toujours dans le respect de ton énergie, c'est
correct.
Oui,
c'est ça, exact. Mais... Puis là, en plus, moi, je suis douée. Puis certains d'entre vous sont doués aussi, bien sûr. Donc, écoute, c'est nécessaire, là. On va mourir.
Oh oui.
Mais j'ai toujours ce combat-là dans ma tête, pas juste en dépression, mais tout le temps, de la petite douée qui aimerait ça faire comme tellement de choses, qui aimerait ça apprendre constamment, qui a 50 millions de projets, qui veut faire plein de choses. Puis t'as la petite autiste qui veut juste aller se coucher, puis rester dans sa bulle, puis voir personne. Puis là, ils se combattent dans ma tête. Je les vois dans ma tête en train de se battre, puis en train d'essayer d'avoir le plus gros bout.
Là, ça me fait penser à un meme que j'ai vu que j'aimerais vraiment beaucoup retrouver en ce moment. Je vais la retrouver.
Ouais, mais sérieux, puis ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que je peux pas favoriser l'un pendant un bout, puis après ça, favoriser l'autre. Il faut vraiment que j'équilibre les choses au même moment, parce que sinon, je m'épuise.
Mm-hmm.
Il suffit que je donne toute la place à l'un d'eux, puis je m'épuise au bout. Fait que, c'est un travail d'équilibriste.
C'est ça, puis c'est la réalité de beaucoup de cas des personnes qui ont justement des co-occurring conditions. Des co-occurrences, ça se dit, hein? OK, je ne trouvais pas la version française.
Oui, co-occurrence, ça se dit. C'est pas accepté comme terme, mais c'est pas grave. C'est du français.
C'est ça. Puis tu sais, on en a parlé quand on parlait des profils TOIS, justement, avec, entre autres, la douance puis le TDAH. C'est quelque chose qui est vécu, justement, d'avoir soif d'eux, mais de... c'est partir en popcorn d'un bout à l'autre puis de ne pas se rappeler de tout. Mais de vouloir tout emmagasiner pareil, là, c'est... Bref, je vois vraiment l'écureuil qui ramasse les noix, mais qui les cache, mais qui oublie ce qu'ils ont mis. Puis on essaie souvent de s'éloigner de l'écureuil quand on parle de TDAH parce que c'est péjoratif, mais dans cette image-là, c'était. Il n'y avait pas de meilleure image.
Ben, c'est cute, ton écureuil, là.
Ah, moi, j'aime les écureuils. Surtout quand ils tombent sur le monde, quand on fait des. Quand ça dort.
Ben, tu vois, c'était justement. Je viens de le retrouver, excusez-moi. Je n'étais plus là. J'étais en sidequest. Allô, oui.
Excusez-moi. Oui, allô, mais tu touches ton micro, fait que ça fait du bruit dans nos oreilles.
Oh, je vais me coucher. Le meme que je parlais, c'était « Being autistic with ADHD enables you to be burned out and bored out at the same time. »
Oui, je l'ai vu, celle-là.
Ouais, tout ça pour ça. Mais ça m'a permis d'en trouver beaucoup d'autres qui sont très intéressants aussi. Il y en avait un autre qui était bien. « Autism, let me focus on this subject for 300 hours. ADHD, let me change my focus every 15 seconds. Autism plus ADHD, let me tell you superficial details about 10,000 shiny things. »
Oui, j'avais vu passer celle-là. Garde les liens, on va les mettre.
Oui, on les mettra.
On va toutes les mettre.
Oh, puis vous excuserez mon anglais fatigué.
ben non, c'est correct. Fait que tu sais, tout ça étant dit, puis quand on parle justement là, de ce que tu apportais avec le comment est-ce qu'on devrait briser les silos dans les différents champs d'études, quand on parle entre autres de la neurodiversité, puis de l'environnement social, tu sais, puis au niveau de l'éthique en santé mentale, tu sais, il y a beaucoup de discussions qui sont en lien avec différentes thérapies, notamment pour l'autisme, où le but, c'est de masquer ou de passer comme normal. Fait que le but de la thérapie, c'est de ne plus avoir l'air autiste, même si les comportements ou les manifestations autistiques ne sont pas négligeables pour la personne. Fait que dans le cas où, par exemple, quelqu'un serait en train de se mutiler ou de, tu sais, là, oui, c'est des comportements qu'il faut arrêter parce que c'est plus néfaste de se faire mal que de le masquer. Mais quand c'est pas néfaste, c'est juste parce que c'est pas considéré comme dans l'ordinaire.
Adéquat socialement.
C'est plus négatif, c'est plus dommageable pour la personne qui est augmenté les risques de suicide, de dépression, etc.
Oui, puis là, on parle de flapping, de d'écolalie, de plein de choses comme ça, de ne pas regarder les gens dans les yeux.
Entre autres, oui. C'est ça. Puis quand on pense à d'autres conditions de la neurodiversité, quand on pense, par exemple, au fait d'être... bon, les profils 10, par exemple, fait que tu sais, le fait de toujours stresser à, par exemple, pas faire d'erreur ou à devoir consommer beaucoup de contenu écrit, si ça va être une difficulté. Ou au niveau du TDA, justement, de toujours masquer peut-être l'impulsivité de bouger ou de parler ou de partager quelque chose. Au niveau de la douance, d'avoir l'impression de devoir se...
C'est
le dumb down que j'avais en tête.
Je sais pas comment le traduire en français non plus. Mais
de se réduire.
Ouais.
Non, mais... Ou d'avoir peur d'être... de paraître comme étant le Joe connaissant fatiguant de la place.
Ouais,
c'est ça. La création du faux self qu'on parle dans certains livres en douance, là. Mais tout ça, tu sais, si on se dit que d'ici... Bon... 10, 15, 20 ans, ces changements-là au niveau de l'approche médicale deviennent plus éthiques, puis qu'on se rend compte que, tu sais, on est capable de tout vivre ensemble sans avoir à cacher certaines manifestations, puis que tu peux aller travailler puis faire du flapping, puis que tu peux aller gérer une réunion, puis que tu peux être le boss puis jouer avec ton fidget toys, puis t'es pas moins crédible pour autant. Qu'est-ce que ça va vouloir dire, tu sais, au niveau du travail, au niveau de l'évaluation de la performance, au niveau... de la gestion de la relève du leadership dans les organisations, tu sais. Je me disais, tu sais, si... Puis là, c'est comme un peu un éditorial, là, ce que j'avance.
Oui, totalement.
mais je me disais, tu sais, si je faisais le parallèle avec le milieu du travail et puis avec l'évaluation de la performance, tu sais, sachant que quelqu'un est neurodivergent, des fois, on ne sait pas toujours, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas le disclaimer, mais tu sais, sachant que quelqu'un est neurodivergent...
Qui ne savent pas.
C'est de récompenser l'hypercompensation ou du passing ou du masking, c'est très détrimental parce que la personne, elle doit toujours hypercompenser pour avoir les promotions, pour avoir des augmentations, pour sécuriser son travail aussi. Fait que cette espèce de croisement-là entre le moment où ça va être accepté versus maintenant, puis le fait qu'on est quand même comme ça, t'sais, c'est quoi les meilleures stratégies pour réduire les facteurs de risque psychosociaux puis avoir un environnement de travail qui est inclusif pour les personnes neurodivergentes puis protéger la santé mentale puis normaliser certaines manifestations, tu sais.
J'avais comme juste le goût de faire un mini commentaire. Alors, j'ai pas de réponse à ta question ou à ta réflexion. J'ai pas le cerveau pour ça aujourd'hui. Mais j'avais juste le goût de dire, en plus, on l'a nommé, je pense, une fois, mais d'être félicité et récompensé pour les mécanismes de compensation. On en vient à construire toute une identité là-dessus. Hein. Mm-hmm. Le syndrome de l'imposteur, après, il est vraiment, vraiment très fort quand tu sais comment... T'es juste en mode « I have no idea what I'm doing, j'ai aucune idée de ce que je fais, mais j'improvise au jour le jour, puis ça fonctionne, puis en plus on me valorise, on me renforce, puis je vais continuer à mettre ce comportement-là de l'avant parce que c'est tout ce que je sais faire au final, tu sais.
Mm-hmm. » Ouais, mais c'est comme ça qu'on crée le fameux masque dont on parlait tantôt, tu sais, on a tout appris comment se conformer en société, puis une fois que t'as ton diagnostic, tu sais plus comment le défaire, mais ça vient de là, c'est qu'on nous a récompensés sur des choses qui nous étaient pas naturelles, puis ben t'as appris, mais... C'est pas ça. Ça demande une énergie folle. Puis finalement, pourquoi? Ça change quoi de faire du clapping? Ça change quoi de pas regarder dans les yeux? Come on!
Non, c'est ça. Ça change absolument rien. Puis à l'autre antipode de la situation, tu sais, quelqu'un qui n'arrive pas justement à compenser, à masquer le stress qui est vécu. Tu sais, je pense à notamment une histoire que j'avais entendue, je ne me rappelle plus où. C'est un témoignage d'une personne dyslexique. Puis son boss passait toujours en arrière de lui ou de elle pour dire « Ah, t'as fait une faute là, t'as fait une faute là » à haute voix devant tout le monde. Fait que ça rajoutait au stress, mais la personne, le boss savait pas que la personne était dyslexique.
Mais même ça.
Ben même ça, tu sais.
Ça se fait pas.
C'est ça, fait que ça vient juste augmenter le...
Le stress.
Le fait que la personne soit dyslexique, ça augmente encore plus le stress, justement, tu sais.
La stigmatisation est énorme.
Oui.
Oui.
Ouais.
Puis avec tout ça, j'ai l'impression d'avoir vraiment éloigné l'attention de toute ta réflexion éditoriale qui était super intéressante.
C'est correct! Non, mais tu sais, en tout cas, j'ai amené ça en question en me disant, bon, ben, je vais vous lancer la balle, mais si la balle a rebondi moins, c'est correct aussi. On...
Oui, c'est une balle pour futur moi. Ça me fait vraiment plaisir de la reprendre.
Ben, on la reprendra. Puis tu sais, pour aujourd'hui, quand je réfléchis à tout ça, je me dis... En tant que ressource humaine ou en tant que gestionnaire, tu sais, dans les façons d'aller de l'avant avec des façons plus inclusives, tu sais, quand on parle justement du design universel de l'inclusion. Oui, excuse Solène, tu veux-tu dire quelque chose?
Mais non, vas-y, finis ton affaire, je prends la peine. Depuis quand est-ce que lever la main et signifie je veux t'interrompre?
Je suis fatiguée, moi, avec, hein, fait que... fait que le design universel au niveau de l'inclusion, quand on parle aussi de communication non violente, d'affirmer plus en termes de besoins ce qu'on a besoin, puis de respecter le fait qu'un besoin est légitime. C'est toutes des choses qui peuvent permettre justement d'avoir un milieu du travail qui est plus inclusif puis qui est plus accueillant.
Oui, ouais. Bienveillant. Ouais.
Bienveillant.
Ouais, ouais, ouais. Moi, ce que je voulais dire, c'est ramener ça en fait un peu aux pratiques en ressources humaines, mais tu sais, on a déjà parlé des entrevues, puis comment est-ce que finalement, une entrevue, c'est pas forcément la meilleure personne pour faire le poste qui va le dire, qui va l'avoir. C'est la personne qui en parle le mieux, qui va avoir toutes les fleurs. Fait que, comment est-ce que tu peux changer le paradigme pour que les processus ressources humaines soient plus accueillants, plus inclusifs et donc respectent mieux les risques psychosociaux? Ben, en fait, c'est un peu ça. C'est de s'assurer de revoir un peu quels sont les critères, puis est-ce que la façon qu'on l'évalue est vraiment la meilleure pour évaluer correctement. T'sais. Oui,
Ça me fait juste me demander. Mélissa, tu nous partageais une petite simulation avec les monstres.
Oui, j'allais en parler. C'est bon que t'en
parles. Ah, merveilleux. J'ai trouvé ça excellent comme exercice. C'était vraiment intéressant. Puis je trouve que ce serait le fun à partager à notre auditoire. Oui. Puis à mettre de l'avant. Je trouvais vraiment que c'était un bel exercice pour se rendre compte de c'est quoi nos perceptions par rapport à un milieu inclusif puis divers.
Oui, diversifié. On va vous partager ça. Mais c'est un petit test, un petit jeu, simulation. Même moi, j'ai aimé ça faire ça. Moi qui déteste les jeux. Mais ouais, c'est une petite simulation avec des monstres qui font un processus d'embauche, puis de, en tout cas, toute la vie de l'employé.
Il y a cette simulation, puis il y en a une autre aussi que j'ai vu passer, je crois, sur URL.
Ah oui, ça se peut. Il va falloir aller checker sur URL.
On va, voilà, vous reposer une ou deux simulations qu'on mettra les liens.
Mm-hmm. Mais, puis, avec tout ça aussi, ça me fait penser à l'autre point que j'avais en tête. C'est quand on parle justement de l'éthique au niveau de la recherche, au niveau de la santé mentale, qui n'est absolument pas notre champ d'expertise, mais je vais juste l'utiliser pour faire un parallèle. Ou dans les champs de recherche, on va plus focusser sur les déficits. Puis de comment guérir ou réparer ou amoindrir les déficits. Au lieu de travailler, oui, au lieu de travailler autour des forces, qui est vraiment la pierre angulaire de la psychologie positive, ben c'est un peu la même chose quand on... Là, et je m'en vais vers mon parallèle dans les milieux du travail, je vous promets. C'est de se dire qu'au travail, justement, quand on parle d'évaluation de la performance, quand on parle de progression des personnes dans l'organisation, d'aller avec les profils de force, au lieu d'y aller vraiment avec ce qui est à travailler, à améliorer dans les évaluations, c'est là qu'on va aller chercher le meilleur des personnes puis qu'on va s'assurer qu'on ne va pas mettre toute l'énergie sur des zones qui sont en zone de défi.
Mm-hmm.
Et que ça va toujours rester une zone de défi. Ouais.
Mais en même temps, je pense qu'il faut équilibrer. Il faut aussi travailler sur les zones de défi. On l'a souvent dit, hein, il faut faire un bout de chemin vers l'autre.
Ouais.
Puis, ben, là, on parle de nos diversités, mais ça peut être plein d'autres choses dans le domaine de l'emploi. Là, mais je pense qu'il faut y aller. Mais ce qui est important en tant qu'employeur, je crois, c'est d'aider ton salarié ou ta salariée à évoluer. Puis c'est même autre de lui dire « Ah, mais il faudrait que tu fasses ça. » Mais OK, mais comment? Qu'est-ce que tu vas faire, toi, comme employeur, pour corriger la situation, pour l'aider à corriger la situation aussi? C'est un travail
C'est ça. Parce que oui, co-responsabilité, puis je suis entièrement d'accord là-dessus. Puis ce que je voulais exprimer par ça, c'était plus, tu sais, par exemple, quelqu'un qui TDAH, mémoire de travail absolument
ouais, mais faut aussi,
obsolète.
Ce que tu as amené était positif, là, c'est qu'il faut aussi faire ça, il faut surtout faire ça, mais il faut équilibrer, je pense. Fran, ça fait comme 5 minutes que tu essaies de parler, je te laisse la parole.
Non, je voulais finir ce sujet-là parce que j'avais trouvé ma simulation.
Finissons. Ah oui? Ah, oh, oui. D'accord.
C'est fini?
On avait-tu quelque chose à ajouter?
Non?
Ah, ça va, fait que c'est à toi, Fran.
J'allais juste dire, oui, c'est bel et bien sur URL, c'est une espèce de petit jeu de simulation qui démontrait que c'était difficile de rester équitable et inclusif quand le temps va vite pour recruter.
Mmh. Ah oui, je l'ai fait, oui. Celle-là aussi. C'est vrai qu'il est bon.
Donc, je vais mettre le lien dans l'épisode.
Oui, on va partager plein d'affaires aujourd'hui.
Parfait. Sur ce, moi, j'aurais tendance à vous demander si on n'a pas envie de rapper parce que dans un élan d'indulgence et de bienveillance pour ma personne, j'ai juste envie d'aller manger un cookie. Donc,
c'est tellement parfait. Fait que, ben,
je
bon
proposerais de rapper.
Ben oui, bon cookie. Puis, ben, c'était fun de parler de ça avec vous autres. Oui. C'est pas toujours un sujet facile. D'ailleurs, je pense qu'on va mettre un disclaimer avant de vous en parler.
Mm-hmm.
Ça va être important. Mais,
oui, voilà. Vraiment. Je me considère chanceuse d'avoir un espace où je suis capable de clore en disant « Hey, je suis plus capable, je m'en vais manger un cookie. » Sérieusement, oui. C'est du safe space à l'état pur.
Ah oh, oui!
Fait qu'on vous souhaite des cookies, on vous souhaite de la douceur.
Oui.
Puis de l'auto-bienveillance, c'est important. Oui. Soyez gentil avec vous-même.
Vraiment.
Prenez soin de vous.
Bye, là.
Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.